à tous. Je suis très très heureux d'être avec vous ce matin, c'est vraiment une grande joie. C'est pour moi la première fois ici dans votre église à Aubergenville. Alors je me présente donc en quelques mots. Donc, je m'appelle Jérôme, j'ai 33 ans. J'ai grandi en Bretagne, au bord de la mer, un endroit absolument magnifique. Et après, donc, quand je suis parti faire mes études, je suis arrivé à Nancy. Alors au début c'était une grande déception pour moi. Parce que j'avais demandé une école dans le sud de la France et j'ai pas passé le concours. Je me suis retrouvé sur mon deuxième choix à Nancy. J'étais très très déçu, mais j'ai vu que c'était la volonté de Dieu. Le mois qui a suivi, j'étais invité à un groupe de jeunes où j'ai pu donner mon cœur à Jésus. Je l'avais pas fait avant. L'année qui a suivi, il y a une jolie charmante jeune fille de Chine qui venait donc dans l'église. On était dans le même groupe Alpha. On s'est rencontrés là, finalement on s'est fiancés, on s'est mariés. Et donc il y a 3 ans, je vous montrerai des photos de mon épouse tout à l'heure, enfin cet après-midi. Finalement, donc il y a 3 ans, on a déménagé en Chine et on vit là-bas maintenant. Donc là, je suis en France juste de passage pour un mois. Alors, nous allons voir une histoire dans la Bible. C'est une belle histoire. C'est une histoire que j'aime beaucoup. C'est une histoire qui me parle, qui nous parle. Et vous allez voir, c'est une histoire qui parle d'Aubergenville. Alléluia. On va regarder tout ça, c'est dans Jean 4. Dans Jean 4, donc c'est l'histoire bien connue de la femme samaritaine. Alors on va lire cette histoire. C'est dans Jean 4, on va commencer donc au verset 3. Donc vous pouvez ouvrir vos Bibles. Jean 4, verset 3. Tout le monde a trouvé ? Donc Jésus est en voyage, il voyage donc du sud vers le nord d'Israël, et il traverse un endroit, une région, où il n'y a pas de juifs. C'est une région donc qui s'appelle la Samarie, et donc le peuple, ce sont les Samaritains bien sûr, et ce ne sont pas des juifs, hein, donc ils ne connaissent pas le Dieu de la Bible comme les juifs. Voyons ce qui s'y passe. Je lis à partir du verset 3. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits, c'était environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. Une femme de Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire « Je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorerez Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Je le suis, moi qui te parle. » On lit juste le verset 29 pour conclure. La femme samaritaine qui dit, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» C'est l'histoire de la femme samaritaine. Jésus est assis au bord d'un puits, il rencontre une inconnue, une femme samaritaine, le temps que donc les disciples aillent acheter à manger. Les disciples reviennent, juste le temps de faire les courses. Le temps de faire les courses, une inconnue croit en Dieu, dit « Jésus, tu es le Christ ». C'est formidable. Alors ce qu'on va regarder ce matin, c'est comment cette femme est passé du stade où Jésus était inconnu au stade où il dit « tu es le Christ ». Parce que le Christ, ça veut dire le sauveur, c'est le Messie. C'est un processus très intéressant et on va voir, on est tous dedans en fait. Alors on commence par le début. Donc on va regarder en fait une par une les paroles de la femme samaritaine et on va voir comment elle évolue en fait. Donc la première parole que la samaritaine dit, c'est « comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, moi qui suis une femme samaritaine ?» Là, en fait, quand Jésus lui parle, il lui demande à boire, la femme samaritaine est surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que Jésus lui parle. Dans cette phase de surprise, Jésus est pour elle un parfait inconnu. La deuxième étape, elle fait un discours sur la profondeur du puits. Donc, en fait, ce qui est dit, c'est tout à fait logique. Jésus n'a rien dans les mains, le puits est profond, raisonnement logique. Comment vas-tu faire pour sortir l'eau du puits? De plus, elle fait une allusion à l'histoire par rapport à Jacob. Est-ce que tu serais plus grand que Jacob? Logique, histoire. C'est ce qui se passe souvent quand on discute avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. On voudrait parler des choses spirituelles et la réponse est basée sur la logique et sur l'histoire. Mais croire en Dieu, c'est pas logique. Les scientifiques disent que les hommes descendent du singe. C'est pas logique, ton truc. Mais regardez l'histoire. Regardez l'histoire des croisades. C'était une horreur. C'est parfaitement... pour celui qui le dit, c'est tout à fait normal comme réponse. Comme cette femme samaritaine, c'était tout à fait normal comme réponse. Logique. Histoire. Jésus ne s'arrête pas là, il continue. Et regardez la troisième parole de la femme samaritaine. Elle dit ceci. « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Ah, on a changé là. Vous avez vu le changement? Est-ce que vous avez vu le changement? Au début, la femme donc met une distance par rapport à Jésus, trouve qu'il n'est pas très logique, qu'il ne connaît pas bien l'histoire. Tout d'un coup, elle lui fait une demande. En fait, Jésus a suscité en elle la foi. Au point où elle lui demande donc de l'eau, parce que ça va répondre à son besoin. Ça, c'est donc cette troisième étape. Elle voit en Jésus un intérêt. Jésus peut l'aider. Elle voit en lui quelqu'un qui peut répondre à son besoin. La quatrième étape, nous la voyons juste après. Donc c'est le verset 19. La femme dit, « Je vois que tu es prophète. » Elle a vu que Jésus était capable de voir les choses invisibles. Jésus n'avait aucun moyen de savoir qu'elle n'avait pas de mari. Enfin, qu'elle a eu 7 maris et que le mari avec qui elle était n'était pas son mari. Il n'avait aucun moyen de le savoir. Et il l'a su. Comment? Parce que Jésus, donc la femme dit, tu es prophète. Jésus voit dans les choses invisibles. Jésus voit ton cœur, Jésus connaît ta vie. On ne s'en rend pas toujours compte d'ailleurs. Et Jésus, il connaît tout de nous. Et c'est pour ça qu'il peut bien nous aider. Il connaît tout de nous. La femme samaritaine s'en rend compte. Et nous voyons les dernières paroles de la femme samaritaine qui dit, Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ ? Elle arrive à dire, Jésus est le Christ. Revoyons ces cinq étapes. La première étape, c'est la surprise, Jésus est un inconnu. La deuxième, c'est la moquerie, Jésus est un philosophe, il parle bien, mais il ne connaît pas le monde réel. Il parle bien, mais il ne sait pas comment ramasser l'eau du puits. Un philosophe. La troisième étape, c'est l'intérêt. Ah, il peut m'aider. C'est un bon distributeur. Jésus est un bon distributeur. La quatrième, c'est la révélation. Il parle des choses spirituelles. Il parle de mon cœur, il me connaît. Jésus est un prophète. La cinquième, c'est la foi. Jésus est le Messie. En quelques heures. Même pas. Enfin, c'était le temps de faire des courses. Comment Jésus a fait ça? Et quand on repense à ces cinq étapes, on est tous là-dedans, en fait. Qui qu'on soit, pour nous, Jésus est forcément soit un inconnu, soit un philosophe, soit un distributeur de bénédictions, soit un prophète, soit le Messie. Il n'y a pas tellement d'autres choix, en fait. Et c'est la question que nous pose ce passage. Pour toi, apporte ta réponse. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Voyons maintenant comment Jésus a-t-il fait. Parce que Jésus, c'est le meilleur exemple, c'est le meilleur modèle. Et on parle d'évangélisation cette semaine. On parle d'évangélisation pour la ville. Jésus va nous montrer un exemple. Comment a-t-il fait? Alors ça m'intéresse parce que souvent on dit « Ah là là, la France c'est dur ». On témoigne pendant longtemps et puis il n'y a pas de changement. Le temps de faire les courses, Jésus a convaincu une femme. Ah, ça m'intéresse de voir comment il a fait. Alors, ben on va resuivre, hein, on va reprendre. Comment Jésus fait-il? Donc il rencontre la femme, il lui pose une question, enfin, c'est pas une question, c'est presque un ordre. Donne-moi à boire. Ah, c'est la première parole de Jésus. En fait, c'est une salutation. Donc c'est une manière en fait de rentrer en contact avec la personne qu'il ne connaît pas. Bonjour, peux-tu me donner un verre d'eau? C'est une salutation, c'est une manière de prendre contact, c'est une manière de commencer un dialogue, de commencer une amitié, commencer donc une relation amicale. Et c'est plus que ça. Parce qu'il lui dit, donne-moi à boire. Jésus lui demande de lui donner quelque chose. Pourtant, nous savons bien que Jésus, venant sur terre, vient lui-même pour donner. Il vient pas pour prendre. Il a déjà tout ce qu'il faut. Jésus vient pour donner. Il vient même pour donner sa vie. Amen. Et là, il lui dit, donne-moi. Alors qu'il vient pour donner. Pourquoi dit-il, donne-moi? Parce qu'il est déjà en train de la former comme disciple. Il lui apprend à être généreuse. Il lui apprend à travailler pour les autres. Pourquoi? Parce qu'il a vu ce qu'elle sera un jour, évangéliste en Samarie. Nous allons le voir juste après. Quand Jésus nous demande de faire quelque chose, même la plus petite chose, cette chose est très importante. Pas parce que la chose est petite ou grande, parce que c'est lui qui le demande. Et quand Jésus a demandé à cette femme samaritaine, donne-moi à boire, si elle avait refusé, l'histoire se serait arrêtée là. N'est-ce pas? Mais elle a accepté. Et quand Jésus nous demande une petite chose, cette petite chose a une grande valeur. Parce qu'il voit la suite. La suite, regardons. Donc la deuxième parole de Jésus, c'est au verset 10. Il lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Ah, c'est un peu mystérieux. De quoi Jésus parle-t-il? Probablement, la femme n'a pas tout à fait saisi, et c'était volontaire. Jésus, en fait, il utilise là une parabole avec de l'eau. Alors, c'est toute la qualité de Jésus, en fait, c'est de s'adapter à la situation. D'accord? À chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un de différent, il utilisait une manière de parler différente. Avec Nicodème, c'était une autre façon. Parce que lui, il était docteur de la loi. Mais pour cette femme qui vient puiser de l'eau, il utilise une comparaison avec de l'eau. Il s'adapte à la situation, il s'adapte aux besoins des gens, il s'adapte à leur environnement et il stimule la curiosité. Parce que cette parole que Jésus prononce, Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire, donne-moi à boire », tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. L'eau vive, de quoi parle-t-il? Est-ce qu'il parle de l'eau du puits? Non, de quoi parle-t-il? De la vie éternelle, il le dit juste après. Mais la manière dont il présente, en fait, suscite la curiosité. Mais de quoi parle-t-il? Et ça engage un dialogue encore plus profond. Ça fait que la femme va lui poser des questions. Et ça, dans l'évangélisation, c'est une clé de ne pas faire les questions et les réponses en même temps. Sinon, il n'y a pas de dialogue. Et bien Jésus, il suscite la curiosité pour que les gens posent des questions. Et à partir de là, il y a un échange qui se fait. Et on voit tout de suite la suite, c'est le verset 14. Donc il continue avec l'eau. Mais celui qui donnera de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Voilà le but de Jésus. C'est dépasser, il a utilisé donc une comparaison, c'est l'eau naturelle qui nourrit, enfin, c'est pas nourrissant, mais ça donne la vie pour le corps humain. De même, la parole de Dieu, la présence de Jésus, nous donne la vie pour la vie éternelle. Il utilise donc cette comparaison du monde naturel pour expliquer une vérité spirituelle. C'est très important, c'est ce que Jésus est en train d'expliquer. Il est en train d'expliquer que voilà, l'eau du puits est importante pour le corps, mais il y a encore plus que ça. Et alors, pour faire un petit exemple, pour comprendre un petit peu la pensée de Jésus, on peut faire la comparaison avec un couple qui se prépare pour le mariage. Alors, quand on se prépare pour le mariage, je ne sais pas s'il y a des gens qui se préparent pour le mariage ici dans la salle, non ? Ou il y en a qui se sont mariés il y a quelque temps. Si vous vous rappelez bien, avant le mariage, on est très occupé par la préparation de la cérémonie, le choix des vêtements, la robe de la mariée, le restaurant. Tout cela est important. Mais c'est pas le plus important. Parce que la robe de la mariée, elle ne sera portée qu'une seule journée. N'est-ce pas? Le repas de mariage sera mangé dans la soirée. Les alliances vont durer longtemps. Vous êtes mariés depuis combien de temps? 3 ans. Super. La première année, c'est la plus dure. Après, c'est bon, hein. En fait, c'est la même chose. L'eau, on la boit, hop, c'est fini. Et c'est pour ça qu'il faut revenir au puits. Et Jésus est en train de lui montrer que il y a une eau qui dure pour toujours. Et un petit peu comme dans le mariage, où voilà, le repas, on va le manger une fois, la robe, on va la porter une fois. Mais l'alliance, la relation de mari et femme, on va la garder toute la vie. Et c'est ça que Jésus est en train d'essayer de lui montrer, que dans la vie, il y a plus que manger, boire, dormir, avoir des enfants, il y a la vie éternelle. Ensuite, donc c'est la quatrième étape, Jésus lui dit ceci, « Tu as raison de dire « je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Dans la Bible, ce type de parole, comment est-ce que ça s'appelle? Ça porte un nom, parole de connaissance. Ça fait partie des dons du Saint-Esprit. Alors vous voyez, Jésus est dans un dialogue, tout d'un coup, action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en action. Le Saint-Esprit donne au travers de Jésus une parole de connaissance pour aller plus loin. On a souvent besoin de ça. Un don du Saint-Esprit, ça peut être, par exemple, une guérison miraculeuse, ça peut être une prophétie, ça peut être une délivrance, une parole de connaissance, une prière inspirée. Mais ça, c'est comme si ça ouvre le ciel. Avant, on voit ce qui se passe sur terre, le Saint-Esprit agit, pouf! On se rend compte que ce qui se passe sur terre est le reflet de ce qui se passe dans le ciel. On se rend compte que l'invisible précède le visible, comme dans la création. Par la parole de Dieu, donc Dieu a, par sa parole, il a créé le monde. Sa parole invisible a créé le visible. Et quand l'Esprit agit, on se rend compte qu'effectivement, c'est l'invisible qui conduit le visible. Et c'est pour ça qu'elle dit, tu es prophète. Et à la fin, donc Jésus lui parle ouvertement. Es-tu le Christ ? Oui, je le suis, moi qui te parle. Et il a cette parole qu'on a tous entendue. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il parle des choses les plus profondes. Dans les groupes de louanges, je sais que c'est une parole qu'on étudie. C'est une parole qu'on médite, une parole qu'on travaille. Cette parole qui fait méditer tous les groupes de louanges a été donnée à une femme samaritaine. Imaginez si Jésus, saluant la femme au bord du puits, dit « Bonjour, je m'appelle le Christ, donne-moi un verre d'eau s'il te plaît. » Quelle aurait été la réaction ? Ça aurait été un petit peu bizarre. Mais la révélation la plus profonde, il l'a donnée au moment où elle était le plus ouverte. Voyez le tact de Jésus, sa politesse. Il est galant, il ne force pas. Il est dans un dialogue, et au moment opportun, au moment où la femme est ouverte, il va donner les choses les plus profondes. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Une parole absolument directe, sans aucune image. On ne parle plus d'image d'eau, on parle directement de Dieu. Alors il y a donc un cours, qui s'appelle le cours Alpha, que vous connaissez bien ici d'ailleurs, qui utilise parfaitement ces principes. Le principe de commencer par l'amitié, commencer par la relation tout à fait normale, comme Jésus le fait, la salutation, donne-moi à boire. Au cours Alpha, passe-moi une cuisse de poulet, passe-moi le sel. On commence comme ça. Eh oui. La deuxième étape, c'est de stimuler la curiosité. Alors on va poser des questions. Dieu existe-t-il ? Oui, non, peut-être. Ça fait réfléchir. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas la réponse question toute prête. Ça fait réfléchir. Ensuite, on va montrer que voilà, le monde matériel, c'est une chose, gagner sa vie, c'est une chose, mais il y a plus. Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Qui est-il le plus dans la vie ? On va voir ce week-end du Saint-Esprit où l'Esprit va agir. Et après, on va pouvoir parler très ouvertement des vérités spirituelles. Le cours Alpha a repris exactement, en fait, ce que Jésus avait fait il y a 2000 ans. Et ça nous montre que les églises ou les chrétiens ou le cours Alpha n'a rien inventé. Jésus le faisait. On ne fait que reprendre le modèle que Jésus nous a donné. Alléluia ! Amen. Alors, c'est l'histoire de la femme samaritaine, mais en fait c'est notre histoire, puisque Dieu nous pose cette question pour toi, qui est Jésus ? Est-ce un inconnu ? Est-ce un philosophe ? Est-ce un distributeur de bénédictions ? Un prophète ? Ou est-ce le Messie ? C'est l'histoire de la Samaritaine, c'est l'histoire de toi et moi, c'est aussi l'histoire d'une région. Parce que voyons ce qui s'est passé juste par la suite. Donc, si on regarde les versets en fait 39 à 42. Donc la femme retourne dans la ville en fait, hein. Et puis les gens viennent. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et ils disaient, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Le peuple de Samarie a été touché. Le peuple de Samarie a été transformé. Alors après, dans la suite des évangiles, on n'en parle pas trop, au début des actes non plus, mais il y a un moment où ça revient. Et on va le relire, parce que vous allez voir la puissance du plan de Dieu en action. Alors, lisons quelques versets dans Acte 8, si vous voulez bien. On va tourner notre Bible au livre des Actes. Acte 8. On reparle de Samarie. On va lire quelques versets qu'on va choisir. Alors, on lit Acte 8, les versets 5 à 8. Philippe, donc, était évangéliste, hein. Philippe, étant descendu dans la ville de la Samarie, dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Voyez le verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Voyez le verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Et on termine avec le verset 25, donc c'est la fin de l'histoire en fait. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Samarie changée. Ça a commencé par une femme. Une femme en plus qui venait puiser de l'eau à midi, au moment le plus chaud, parce que c'est le moment au fait où personne ne vient, il fait trop chaud. Une femme qui se cache. Une femme qui n'a pas apparemment de don particulier. Une femme qui est en marge de la société, elle a eu 7 maris. Voyez le résultat de l'obéissance. Elle a donné à boire à Jésus. Elle est entrée en dialogue avec Jésus. Elle a témoigné à son peuple. On voit après, donc c'est quelques années après, peut-être 3 ans après, le peuple de Samarie qui reçoit la parole de Dieu, des foules baptisées, des malades guéris, des gens baptisés du Saint-Esprit. Quand Jésus est venu sur terre, il avait cette mission de sauver le monde. N'est-ce pas? Il avait un temps limité pour le faire. Regardez comment il a fait, c'est très intéressant, ça va nous instruire. Ça va nous instruire pas seulement pour l'Église, mais aussi pour la vie de tous les jours, notre travail. La Bible est le modèle pour la gestion de projet. On a en Chine, on connaît quelqu'un qui est consultant, très connu, il a écrit un bouquin de management. Il est venu dans notre entreprise, j'en parlerai cet après-midi, pour proposer ses cours, un gars très intelligent. Il est venu au cours Alpha. Au début, il parlait beaucoup de ses cours et tout, son bouquin. Après, il disait plus rien. Il regardait. Et à la fin, il a dit, il y a plus de sagesse dans la Bible que dans mon livre. Il a jeté son bouquin. Il a pris la Bible. Et maintenant, il enseigne le management selon la Bible. En Chine. Et alors là, il y a un exemple de gestion de projet. Alors, on va essayer de le voir. On va terminer par ça. C'est très intéressant. Le projet de Jésus, enfin, c'est pas le projet de Jésus, le projet que Dieu le Père confie à Jésus, c'est de venir sur terre pour sauver le monde. D'accord? Notamment les Samaritains. Y compris les gens d'Aubergenville. N'est-ce pas? Les Bretons. Les Chinois. Amen. Le projet est grand. Et Jésus, quand il rencontre cette femme, il a en tête ce projet. Il le voit. Jésus voit déjà les foules. Jésus aujourd'hui voit les foules à Aubergenville. Est-ce que les gens d'Aubergenville sont plus durs que les Samaritains? Non. Tous les hommes rencontrent les mêmes soucis, ont les mêmes doutes, les mêmes craintes, les mêmes espoirs. Comment Jésus fait-il? Il voit le but. Il connaît le point de départ. Le point de départ, c'est un peuple donc samaritain qui n'est pas juif, qui n'a pas de communication avec les juifs. Il voit le point de départ, cette femme qui a eu une vie de famille difficile. Et il trouve un chemin entre le point de départ et le point d'arrivée. Ce chemin passe par cette femme, passe par le témoignage. Et c'est comme ça que Jésus fait. Il voit un point de départ, mais il connaît le point d'arrivée et il trouve le chemin entre les deux. Quand Dieu voit Aubergenville, que voit-il? Il voit des foules qui vont se faire baptiser. Amen. Il voit des paralytiques qui vont marcher. Quand Dieu voit Aubergenville, il voit des familles qui ont besoin d'être restaurées. il voit des foules qui vont croire en lui. Il voit aussi le point de départ. Le point de départ, c'est quoi ? C'est vous. Vous êtes le point de départ. Vous êtes la femme samaritaine. Vous n'êtes pas les plus doués. Mais vous êtes ceux que Dieu va utiliser. Vous êtes le point de départ. Maintenant, toute la question, c'est de trouver le chemin. Jésus connaît le chemin. Jésus est le chemin. Et ce principe d'avoir le point de départ, la vision du point d'arrivée et de trouver le chemin entre les deux, c'est un principe qu'on retrouve partout, dans les entreprises. Voilà, à la fin de l'année, on va faire le bilan 2011, c'est le point de départ. On va faire une projection sur 2012, on va fixer des objectifs, c'est le point d'arrivée. Et on va faire un plan d'action pour faire le lien entre les deux. Quand Jésus a créé la planète, c'est ce qu'il a fait exactement. Il a un point de départ, la terre était uniforme et vide. Il connaît le point d'arrivée, une terre avec des hommes, avec une nature parfaitement équilibrée. Et il trouve un chemin entre les deux, un processus. Et ce qu'il fait de plus, c'est qu'à chaque étape, il vérifie si le résultat correspond à ses exigences. Quand on gère un projet dans une entreprise ou dans une église, un groupe de louanges par exemple, vous avez un beau groupe de louanges. Alléluia ! Alors, quelle est la différence entre un groupe de louanges et un groupe de musique ? On va demander aux gens du groupe de louanges de répondre à cette question. Qui peut expliquer en quelques mots la différence entre un groupe de louanges et un groupe de musique ? Ouais ? Il y a une vision alors. Il y a un but. Comment vous voyez le groupe de louanges dans 2-3 ans ? En fait, c'est ça la différence entre un groupe de musique et un groupe de louanges. Un groupe de musique, il fait de la... Et voilà. Le groupe de louanges, il a une vision. C'est d'amener le peuple de Dieu à adorer son Créateur et d'être un modèle pour y arriver. Il a une vision, il a un point de départ. C'est la situation actuelle, c'est le niveau actuel des musiciens, c'est le niveau actuel des chantres. Et il trace un chemin pour arriver à son but. Alléluia. Aujourd'hui, tu es la femme samaritaine. Aujourd'hui, tu as un point de départ. Aujourd'hui, tu n'es pas le meilleur. Et pourtant, Dieu va t'utiliser pour Robert Jeanville. Aujourd'hui, tu as un projet professionnel. Aujourd'hui, tu as des projets d'études, des projets d'association, projets dans l'église, projets dans la vie sociale. Quelle est ta vision ? C'est la première question à se poser dans un projet. Quelle est ta vision ? Qu'est-ce que tu vois ? La vision, ça vient du mot voir. Hein ? Qu'est-ce que tu vois dans 2 ans ? Qu'est-ce que tu vois dans 3 ans ? Qu'est-ce que Dieu te dit, en fait ? La question n'est pas qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que Dieu te dit ? Qu'est-ce que Dieu te demande ? Quel est ton point de départ ? Comment vas-tu tracer ce chemin entre le point de départ et le point d'arrivée ? Tout ça, ce sont des questions que je vous laisse. Des questions auxquelles Dieu va répondre. Alors, je vous propose de prendre, pour terminer, un petit temps de prière. On va se mettre devant Dieu. On peut simplement, là où on est, rester assis, fermer les yeux. Donc, cette histoire de la femme samaritaine nous a parlé de nous-mêmes, nous a parlé de comment nous voyons Jésus. Je vous propose de prendre une petite minute de silence où vous réfléchissez à cette question. Pour toi, qui est Jésus ? Réfléchis à cette question, médite à cette question, réponds à cette question. Dieu voudrait que tu répondes à cette question. Est-ce un inconnu, un philosophe ? Est-ce un distributeur de bénédictions ? Un prophète qui parle du monde spirituel ? Ou est-ce le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant ? Prenons cette minute de silence et réponds dans ton cœur à Dieu. Pour toi, qui est Jésus ? continuons dans la prière. Maintenant, la deuxième question que Dieu nous pose ce matin, c'est: veux-tu être la femme samaritaine pour cette ville d'Aubergenville? Veux-tu répondre à Jésus quand il dit « Donne-moi à boire » Es-tu prêt à faire des petites choses? Es-tu prêt au dialogue avec Jésus? Prenons encore une petite minute de silence où chacun écoute le Saint-Esprit qui lui parle. Cette femme a été transformée quand l'action du Saint-Esprit a été libérée par une parole inspirée. Écoute le Saint-Esprit. Écoute ce qu'il te dit. Écoute ce qu'il te demande de faire. Et retiens-le. Le Saint-Esprit va te parler dans cet instant, car Dieu parle. Prends au sérieux ce qu'il te dit maintenant dans ton cœur. Et nous avons vu ce projet que Dieu avait pour la province de Samarie, comment il avait vu par avance des foules se tourner vers Dieu, guéries, baptisées, réconciliées. Et il est passé par une femme très simple. Humainement, on aurait dit « Dieu, tu t'es trompé, tu as choisi quelqu'un qui n'est pas capable ». Pas choisi la bonne personne. Parfois, tu te dis la même chose. Quand Dieu t'appelle pour la ville, tu dis « Je suis pas le meilleur. Tu t'es trompé, Dieu. Tu n'as pas choisi la bonne personne. » Ce matin, Dieu veut confirmer dans ton cœur et te dire « Oui, je t'ai choisi, pas parce que tu es bien, mais je t'ai choisi parce que je t'aime, parce que tu es mon enfant et parce que j'ai un projet. » Dans ton cœur, réponds à Dieu et dis-lui si tu es prêt à rentrer dans ses projets, prêt à rentrer dans les projets que l'Église met en place pour la ville. Est-ce que tu es prêt à t'investir à 100%? C'est une question que le Seigneur te pose. Connais-tu la vision de l'Église? Dans le groupe de louanges auquel tu participes, connais-tu la vision du groupe de louanges? Dans tes projets professionnels, quelle est la vision de Dieu pour ton projet? Quel est ton point de départ? Comment vas-tu faire? Qu'est-ce que Dieu te demande? Pour chaque personne, la réponse sera individualisée. Donc on va simplement prendre une minute de silence et tu vas écouter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te parler pour le projet sur lequel tu es ouvert. Ouvre ton cœur au projet que Dieu met devant toi et Dieu, simplement, il va te montrer comment marcher sur ce chemin. Il a créé le monde, rien n'est trop difficile pour lui. Prenons une minute de silence devant l'Éternel. Nous écoutons ce que le Saint-Esprit nous dit par rapport à ses projets. Amen. Voilà, je vous invite quand vous rentrez à la maison à relire cette histoire. parce que ce qu'on retient le plus, c'est ce qu'on a découvert par soi-même. Relisez cette histoire, découvrez ce qu'elle veut dire pour votre vie, pour votre métier, ce qu'elle veut dire pour votre église, pour vos groupes, pour les jeunes, pour le groupe de louanges, et écrivez ce que le Saint-Esprit vous dit quand il vous parle. Amen.